Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo avec Michel Simès.
Chers amis DDM du dimanche matin, j'ai envie de vous dire bonjour et de rajouter un dé. Du DDDM, du dernier, dimanche
mais
matin.
Non.
Mais si, c'est la dernière émission de la saison, Patrice. Il va falloir s'y faire. D'abord, bonjour à tous les trois, Emma,
bonjour
Christophe
Michel.
Et Patrice.
Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Mais je voudrais rassurer nos auditeurs, nous serons là le 29 août la rentrée à 9h15 et pour partir pour une nouvelle saison. Nous, on s'est éclaté. Nous espérons que vous aussi, au sommaire, Emma.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
C'est là que je vous emmène.
Qui l'eût cru déplore la perte de l'été.
Dans une belle journée d'été. Écoutez ça, plage, promenade, farniente, barbecue, ça s'annonce pas mal les vacances. Hein. Alors évidemment, il faudra faire avec les moustiques, les coups de soleil et les petits bobos. Mais si vous évitez de jouer aux apprentis sorciers, il n'y aura que du plaisir à prendre. J'ai bien dit si et je détaille dans quelques instants.
Patrice.
Eh bien ce matin, on parle de Bella Hadid, l'un des mannequins les plus courus de la planète. Derrière son ravissant visage, son regard clair et cette vie de rêve dont elle publie les meilleures séquences sur Instagram, se cache une réalité moins rigolote. Bella Hadid souffre de la maladie de Lyme.
Coach Cri-Cri.
Le tcha-tcha de l'insécurité, magnifique chanson de Louis Chédid. Pourquoi cette chanson, me direz-vous ? Eh bien, parce que j'en ai assez d'entendre les femmes dire qu'elles ne se sentent pas en sécurité lorsqu'elles font du sport seules, peur de se faire importuner quand ce n'est pas agressé. Alors moi, je suis avec vous, les filles. Je vous parlerai notamment d'une belle association qui vous encourage à reprendre votre liberté à deux mains pour sortir, faire du sport, courir.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Alors Emma, vous nous emmenez en vacances avec vous.
Oui, c'était, tout à fait.
J'avoue que c'était une sorte de fantasme pour ma part.
C'était tentant, ça me fait plaisir.
Ouais, on sera vraiment, là, Michel.
Non, c'est à moi qu'elle parle.
Je ne crois pas que tu vas être tout seul, mon petit frère.
Alors, on va essayer d'avoir une journée presque parfaite qui commence donc forcément au réveil.
Alors, je vous laisse la grasse mat, mais dès que vous ouvrez l'œil, et ben là, vous comprenez qu'elle n'est pas si parfaite que ça. En tout cas, ça ne commence pas terrible parce que vous vous êtes fait dévorer par les moustiques. Au petit-déj, tout le monde partage son astuce naturelle. Application de vinaigre, citron, argile, persil, oignon, ail, j'allais dire échalote, non quand même pas, bicarbonate, aloe vera, ou très répandu aussi, l'huile essentielle de lavande. Alors méfiance avec les huiles essentielles, elles sont déconseillées pour la femme enceinte et l'enfant de moins de 7 ans. Attention aussi aux allergiques et aux personnes asthmatiques.
Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moustiques. Il a tellement plu au mois de mai qu'il se régale un peu partout. Après la piqûre de moustiques, nous allons aborder une autre partie très sympathique qui finalement me donne moins envie de partir en vacances avec vous si c'est le programme, la morsure de tiques et des fausses bonnes idées comme la badigeonnée d'huile.
Et oui, ça ne permet pas de l'enlever plus facilement et ça risque surtout de la stresser. Or, elle pourrait régurgiter des agents infectieux dans votre organisme. Donc le mieux, c'est de la retirer avec un truc fait exprès qui s'appelle le tire-tique qu'on trouve en pharmacie pour 3-4 euros. Une fois retirée, il s'agit de la dévisser. Hein. On surveille la zone et si une rougeur apparaît, eh bien, on va consulter.
Et on parlera de la tique et de la maladie de Lyme tout à l'heure dans la chronique de Maître Capello de Patrice. Alors après ça, Emma, on va se poser à la maison autour d'un petit barbecue et je crains le pire.
On va se brûler.
Déjà,
je parie qu'on va se brûler.
Ben justement, si on l'installe sur une surface stable, bon bah ben là, on évite déjà de se brûler, enfin qu'il se renverse et qu'on se brûle. Et pour la cuisson, on évite le contact des flammes avec les aliments. Et à l'heure du nettoyage, si vous utilisez une brosse métallique, vérifiez qu'elle ne perd pas ses poils. Parce que si vous les retrouvez au menu du prochain barbecue, ben ça peut provoquer des dégâts dans l'organisme. Donc je suggère plutôt l'eau chaude et la brosse synthétique.
Et moi, si je peux suggérer quelque chose, c'est la plancha. Comme
ah
ça,
oui, pas bête.
Vous n'avez aucun problème de brûlure. Et c'est beaucoup plus simple. Une petite sieste après ce barbecue.
Ah bah oui, quand même.
On la fait comment, la sieste ?
Je vous laisse libre cours. Hein.
Non, dans un hamac sous un arbre.
Dans un hamac sous un arbre, ouais, donc, voilà. Avec toutes les bestioles qui viennent vous bouffer. Et vous êtes exhibitionniste un peu. Et on part à la plage, Emma.
Ouais.
À vélo, avec les enfants à l'arrière ou dans une carriole, léger et court vêtu.
Oui, mais casqué, bien sûr, parce que leurs petites têtes ont besoin d'être protégées. La vôtre aussi, mais leur petite tête encore plus. D'ailleurs, le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils pédalent ou qu'ils soient dans un siège ou une carriole. Et comme c'est la loi, le risque, en plus de l'accident, c'est l'amende de 135 euros.
Et je le répète depuis des années, on le voit dans Paris, les gens qui font du vélo sans casque et tout, c'est même avec des enfants qui sont sans casque, parce que c'est un truc, je ne comprends pas.
Parfois, il y a le parent casqué et l'enfant pas
casqué. Même pour faire 100 mètres, c'est complètement fou. Je pense qu'un jour, ça va devenir obligatoire. Ah, j'ai dit obligatoire. Ouh là là, on va avoir des réactions liberticides.
Mais ça l'est pour les enfants.
Pour les enfants, mais même pour les adultes. À la plage, on regarde bien sûr la couleur du drapeau avant de se baigner. On peut aussi consulter la qualité de l'eau, surtout si on veut pêcher des coquillages pour les consommer.
Alors, normalement, c'est affiché à l'entrée de chaque plage, mais vous pouvez aussi trouver l'info sur le site baignade au pluriel, baignade.santé.gouv.fr. C'était pas mal comme journée,
c'était
à part les petites bébêtes.
Mais pourquoi vous arrêtez, je comprends pourquoi vous arrêtez.
Non, je m'arrête pas parce qu'on rentre à la maison après tout ça. Et là, on découvre un joli petit coup de soleil parce qu'évidemment, on a oublié de parler de la crème solaire dans tout ça. Alors, le coup de soleil, c'est une brûlure et certaines recettes de grand-mère suggèrent de l'apaiser en appliquant des rondelles de pommes de terre ou du beurre dessus. Alors ça, on oublie tout de suite sur n'importe quel type de brûlure d'ailleurs parce que c'est le meilleur moyen d'infecter la plaie. La règle pour toute brûlure, c'est celle du 3 x 15. 15 minutes sous l'eau à 15 degrés, donc ça c'est l'eau du robinet, et à 15 cm du jet. Après ça, on applique un baume et on surveille s'il y a des maux de tête ou des vomissements. Et si c'est le cas, on va consulter.
Très bien, donc et après ?
Après, on va se coucher.
On va dîner.
Après, on peut remettre les barbecues, le petit apéro, tout ça.
Mais on peut refaire une sieste du soir.
Ouais. Ça s'appelle la nuit.
Patrice.
Conseil complémentaire par rapport à tout ce que vient de dire Emma, les lunettes.
Ah.
Eh oui,
les lunettes.
Choisir les lunettes. Le vert, il faut partir du principe que plus il est foncé, plus vous êtes protégé, mais il est surtout impératif qu'il jouisse de la norme CE. Hein, on est bien d'accord. Et puis alors après, il y a la graduation 1, 2, 3 ou 4. Alors, les lunettes de classe 1 ne vous protègent de rien, même pas des arnaques, puisque c'en est une. Ensuite, vous avez la classe 2, ça c'est le minimum syndical. Le mieux, c'est l'été, en tout cas, la classe 3. Avec ça, vous êtes protégé. Ce type de lunettes est d'ailleurs le plus répandu.
Ça coûte un peu plus cher que les deux autres, forcément, mais ça vous protège aussi.
Il y a aussi la classe 4. Alors, c'est la plus costaud, mais en fait, elle est réservée aux enfants ou alors à ceux qui se baladent en montagne où la luminosité peut être particulièrement intense. Mais là, c'est plutôt l'hiver avec la neige. Quoi.
Christophe
Moi, j'ai une phrase d'un patient qui, le médecin lui dit, je vais vous...
C'est assez fou.
Laissez-moi parler. Je vais vous proposer un traitement. Pourriez-vous, d'ailleurs, docteur, me marquer, dit la patiente, des suppositoires comme la dernière fois. Le médecin dit, la dernière fois, c'était lesquels ? C'était pour la gorge ? Elle dit, non, c'était ceux pour se mettre dans le derrière.
Chers auditeurs,
c'est bien d'avoir des copains médecins quand même. C'est quand même vachement bien.
Je suis confus. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2 avec Patrice qui va nous parler de la maladie de Lyme.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Patrice, je ne comprends pas. Vous êtes censé nous parler de Bella Hadid, le mannequin qui enchante nos réseaux sociaux. Vous nous cueillez avec une chanson de Justin Bieber.
Oui, mais c'est parce que vous ne connaissez pas encore le point commun entre le chanteur pour ados prépubères et l'égérie des grandes marques de fringues. Et ce point commun, on le trouve sur leur carnet de santé. Ils souffrent l'une et l'autre de la maladie de Lyme, Michel.
D'accord. Alors la maladie de Lyme, on le rappelle, c'est une maladie qui, si elle n'est pas soignée rapidement, peut devenir particulièrement handicapante, due à une infection par une bactérie. Alors c'est ce qu'on appelle ça la borréliose. On l'attrape après avoir été mordu par une tique. Et c'est ce qui est arrivé à Bella Hadid.
Et c'est sans doute à l'occasion d'une balade dans une région boisée et humide, puisque c'est principalement là que les tiques nous attendent au tournant. Et pour ma part, eh bien, bien, j'ai appris les malheurs de Bella Hadid, comme les 43 millions d'abonnés de son compte Instagram. Et un matin, que vois-je ? Eh bien, Bella Hadid, qui nous sert un selfie avec une intraveineuse dans l'avant-bras, si fin, si gracile, si délicat, si bronzé.
Calmez-vous,
si...
Patrice, nous parlons d'une maladie.
Bref, son bras, donc, l'intraveineuse, le tout assorti de ce commentaire. Vivre avec une maladie revient à toujours trouver du temps pour mes intraveineuses. Alors, je ne saurais vous dire ce qu'il y avait précisément dans la seringue, mais ce qui est sûr, c'est que Bella Hadid collectionne les symptômes de la maladie, un maux de tête, douleur articulaire, trouble de la thyroïde, fatigue récurrente, etc.
Alors, on le disait, hein, la maladie peut en effet devenir handicapante que si on ne l'a pas prise au sérieux au départ. Hein, quand elle s'est déclarée, on peut traiter avec des antibiotiques, mais le diagnostic n'est pas toujours évident à faire, et ceci explique peut-être cela.
Ouais, c'est-à-dire qu'entre le moment où la tique vous pique et celui où les traces apparaissent, eh bien, il peut s'écouler plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors, par ailleurs, si vous vous faites piquer le cuir chevelu ou derrière l'oreille, vous pouvez aussi ne pas voir les traces de la piqûre. Enfin, il semble que la mise en évidence de la Borrelia, la bactérie responsable de la maladie, sur les prélèvements sanguins, soit difficile. L'interprétation du résultat sérologique est compliquée parce qu'il y a des faux positifs, il y a aussi des faux négatifs, et pour couronner le tout, les tests ont été mise au point, on va dire, il y a une trentaine d'années, et depuis, bien, on a décrit pas mal de variantes de la bactérie Borrelia.
Merci Patrice. Professeur Eric Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'infectiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et auteur de La maladie de Lyme, réalité ou imposture, chez Bouquin Édition. Alors, c'est étonnant comme titre, parler d'imposture à propos d'une maladie qui, on le rappelle, est quand même reconnue. Il y a bien un scandale sanitaire autour de la maladie de Lyme, mais c'est peut-être pas le scandale qu'on imagine, parce que on a beaucoup lu, on a beaucoup vu des articles dans des magazines prestigieux qui parlaient du scandale de la maladie de Lyme en disant qu'on passait à côté, qu'on ne la diagnostiquait pas suffisamment, qu'il y avait des conflits d'intérêts pour les tests. Comment on a pu en arriver là ?
Bah écoutez, c'est une bonne question. Je me la pose d'ailleurs moi-même. J'essaie d'y répondre en partie dans le livre. La réalité que vous avez brossée est la bonne, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas tant de problèmes de sous-diagnostic, même s'il y a effectivement un peu de sous-diagnostic, mais il y a surtout un sur-diagnostic et un sur-traitement de patients qui relèvent d'autres pathologies, et c'est notamment le cas de Justin Bieber, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui, je vous rappelle, n'a pas que la maladie de Lyme chronique, mais également une mononucléose infectieuse chronique et également des problèmes d'addiction à différentes substances. Quoi. Voilà. Donc, souvent, il faut regarder les choses un peu plus largement.
Oui, alors, pour revenir à des choses plus médicales pour les gens qui sont concernés, est-ce qu'on a un moyen d'améliorer la fiabilité des tests qui permettrait d'éviter les sous-diagnostics et les sur-diagnostics ?
Oui, alors en fait, ces tests, ils sont, contrairement à ce que tous les détracteurs disent, ces tests sont relativement fiables. Ils sont même, selon le Centre National de Référence des Borrelia, très fiables. Il y a deux tests, il y a un test ELISA, un test Western Blot, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a un test de dépistage, il y a un test de confirmation, et le seul anomalie du test, c'est qu'il met du temps à se positiver. Mais c'est quelque chose qui est assez classique en maladie infectieuse, comme vous savez, les anticorps n'apparaissent pas tout de suite. Donc il y a un délai d'apparition des anticorps, qu'on va dire au maximum, au grand maximum de 3 mois. En fait, c'est plus près de quelques semaines plutôt que de quelques mois. Mais une fois que vous avez tenu compte de ça, de ce qu'on appelle cette fenêtre de négativité, bien que vous ayez la maladie, quand vous avez les symptômes depuis plusieurs mois, toutes les sérologies, si vous avez vraiment Lyme, sont positives.
On va rappeler justement, professeur Combe, ces symptômes. Parce que le problème de la tique, c'est on se promène en forêt, on ne s'est pas protégé, on se promène en Bermuda ou avec des vêtements courts, ce qu'il ne faut pas faire. La tique vous ment, on ne s'en rend pas forcément compte. Alors parfois, il y a ce fameux érythème, c'est-à-dire cette plaque rouge qui vous laisse penser que parfois, on a la tique qui est encore accrochée. Mais quels sont les symptômes qui doivent nous faire penser que peut-être on a été mordu par une tique qui avait cette Borrelia ?
Alors le symptôme principal, c'est celui qui apparaît juste après la piqûre, enfin pas juste après d'ailleurs, avec un certain intervalle libre de quelques jours après la piqûre, qu'on appelle l'érythème migrans, c'est cette fameuse plaque sur la peau un peu rouge qui va s'étendre de manière centrifuge autour de la piqûre de tique et qu'on n'identifie pas toujours parce qu'effectivement on la voit pas toujours. Donc ça c'est le premier symptôme important dermatologique. Ensuite vous avez des symptômes neurologiques et des symptômes rhumatologiques qui peuvent apparaître. Sur le plan rhumatologique principal, principalement une arthrite d'une grosse articulation, en général le genou, et sur le plan rhumatologique, une symptomatologie un peu comme le zona, ce qu'on appelle une méningoradiculite.
Et tout ça au maximum 3 mois après la piqûre.
Voilà, c'est ça, dans les 6 mois qui suivent la piqûre, et puis 3 à 6 mois qui suivent la piqûre, et puis au-delà, après, vous rentrez dans les formes un peu tardives, où la symptomatologie est moins caractérisée, elle peut être récurrente, elle peut être prolongée, c'est ça qui fait parler de formes chroniques. Mais les formes chroniques de Lyme nécessitant des antibiothérapies de plusieurs mois, ou des ordonnances avec 24 médicaments, comme je montre dans mon livre, non, ça n'existe pas, mais, c'est pas de la maladie de Lyme.
Mais professeur Combes, on se met à la place de quelqu'un qui a le genou qui gonfle, qui a un zona, qui va voir son médecin, qui ne sait pas, le patient ne sait pas qu'il s'est fait mordre par une tique, qui n'a pas eu de problème de plaque ou autre. Est-ce que les médecins aujourd'hui pensent suffisamment, ont le réflexe de se dire, tiens, c'est peut-être une maladie de Lyme devant un genou qui gonfle?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, il y a un problème de surdiagnostic, mais il y a aussi un problème de sous-diagnostic, mais qui n'est pas lié à la sérologie, en fait, qui est lié, effectivement, à la méconnaissance de la maladie de Lyme par certains médecins, notamment dans les grands centres urbains, où la maladie de Lyme n'existe pas ou très peu. Comme vous savez, c'est très dispersé sur le territoire. Il y a des régions de très haute endémie, comme l'Alsace ou le Limousin, puis il y a d'autres régions de faible endémie, comme le bassin méditerranéen ou la Bretagne, quoi qu'il y en a aussi en Bretagne. Il y en a partout, en fait, mais à des niveaux très différents. Donc, les médecins qui exercent dans des endroits où il n'y en a pas beaucoup, effectivement, ils peuvent passer à travers la maladie.
Patrice, une dernière question.
Est-ce qu'on peut espérer un vaccin contre la maladie de Lyme? Est-ce que ça mobilise la communauté des chercheurs?
Alors, vous avez raison de parler de prévention. D'abord, il faut dire aux gens, quand ils vont en forêt, il faut s'asperger. Enfin, il y a des produits insecticides qui permettent d'éviter les piqûres de tiques, rentrer les manches les pantalons dans les bottes, etc. Donc, il y a des choses à respecter. Et puis, un vaccin qui va arriver effectivement dans les années qui viennent, je ne sais pas exactement quand. Voilà. Après, il ne faut quand même pas non plus... il faut se rappeler que cette maladie se soigne, la vraie, soigne très facilement quand même.
Si elle est diagnostiquée.
Il faut dire, quand elle est diagnostiquée. Voilà.
Christophe, un rapide.
J'ai une dernière précision. Est-ce qu'on peut être mordu par une tique et ne strictement rien avoir?
Oui, absolument. D'abord parce qu'il y a des centaines de tiques dans la nature. Il n'y a qu'une dizaine de tiques qui peuvent transmettre des agents pathogènes. Il n'y a qu'une tique qui transmet la maladie de Lyme. Donc vous voyez, déjà, il faut avoir été piqué par la tique qui transmet la maladie de Lyme, qui s'appelle Ixodes ricinus. Peu importe. Ensuite, il faut que cette tique ait été infectée par la maladie de Lyme. Ensuite, il faut qu'elle ait le temps de transmettre à la personne piquée, parce que c'est un processus qui prend quelques temps. Si jamais vous retirez les tiques juste après de la balade en forêt, vous n'avez aucune raison d'être infecté par la maladie de Lyme. Il faut plusieurs heures de contact pour que ça passe.
Il ne faut pas que ce soit le bon jour, quoi.
Exactement. Voilà.
Okay. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle, professeur Éric Combes, auteur de La maladie de Lyme, réalité ou imposture, chez Bouquin Édition. Merci pour toutes ces précisions.
Merci à vous.
Dans quelques instants, nous serons dans la partie 3 de l'émission, la partie où l'on va jouer avec nos auditeurs.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et c'est la partie 3, la partie récré de notre émission dans laquelle nous allons jouer. Aujourd'hui, nous allons jouer avec Mélanie. Bonjour.
Bonjour Michel.
Vous êtes factrice en Corrèze.
Exactement.
Vous n'êtes pas la factrice de François Hollande?
Ah non, lui il est à Tulle, moi je suis en Haute-Corrèze.
Attention, c'est pas pareil.
C'est pas pareil, pardon.
C'est pas pareil, non.
C'est pas pareil, alors...
La Haute-Corrèze, c'est Ussel, par exemple.
Exactement, je travaille à Ussel, voilà, tout à fait.
Et voilà, Maître Capello, toujours des bonnes interventions, mais il est incroyable.
Il a dit au hasard.
Il est capable, et c'est très intéressant de vous citer tous les départements français avec leur nom, ce qui est assez passionnant. Sa femme est souvent passionnée par les dîners, où il dit...
Ou en voiture.
72, voilà, il donne un chiffre.
La Sarthe.
Voilà, et voilà.
Préfecture Le Mans.
Voilà.
Et sous-préfecture
40.
Alors, Mélanie, vous allez pouvoir faire vos tournées avec votre courrier avec des écouteurs sans fil, modèle Spark de Focal, Bluetooth, pas de fil, rien. Un son extraordinaire pour pouvoir bosser et écouter en même temps notre émission en replay si vous le souhaitez. Mm-hmm. Mais pour ça, Mélanie, il va falloir trouver la bonne version. Je vous rappelle, une énigme, 3 versions, une seule est bonne. Le 24 mars 1975, Alex Mitchell, un Britannique maçon de son métier, est devant sa télévision. Il regarde un épisode d'une série télé intitulée The Goodies.
The Goodies.
Ouais, Michel parle de The Fine.
Très bien. À un moment, arrive une scène de combat dans The Goodies qui oppose un maître du kung-fu armé d'un pudding et un Écossais revêtu d'un kilt et armé d'une cornemuse. Devant sa télé, Alex Mitchell part dans un fou rire interminable. Que se passe-t-il ensuite ? Version Emma.
Alors, il faut savoir que le fou rire, il va quand même durer 25 minutes. 25 minutes au terme desquelles Alex Mitchell s'effondre littéralement sur son canapé. Malaise cardiaque, il n'y a rien à faire, impossible de le sauver. Il est mort, prouvant ainsi que l'expression « mourir de rire » n'est pas à prendre uniquement au sens figuré.
Christophe.
Alors, ce fameux Alex Mitchell, lointain cousin de Eddie Mitchell, était un peu particulier. Il avait une voix très haut perchée quand il riait. Ça montait dans les aigus. Et ça monte tellement haut ce jour-là qu'à un moment, il s'arrête de rire, s'aperçoit qu'il est devenu sourd. Il s'est en quelque sorte lui-même crevé les tympans. Il s'est auto-rendu sourd, en fait. Voilà.
Eh ben. Patrice.
Le rire d'Alex Mitchell est tellement particulier et long qu'il provoque des ondes dont la fréquence interfère avec celle de la télévision, au point que celle-ci implose dans l'appartement, le blessant grièvement. C'est l'explication qui sera donnée par les enquêteurs.
Alors, Mélanie, vous avez trois versions.
Pas simple, hein.
Mourir de rire, le fou rire qui a duré 25 minutes, il s'est effondré sur son canapé. Le fait qu'il se soit rendu sourd après ce fou rire parce que ça montait trop dans les aigus. Et puis, le rire qui avait fait imploser la télévision de Mitchell. C'est pas évident, Mélanie, hein,
c'est
aujourd'hui.
Dur, hein, c'est pas facile.
Non,
ouais.
C'est pas facile. Et je vous rappelle que vous pourriez, si vous gagnez, gagner des écouteurs sans fil focal.
Mm-hmm.
Alors, faites par élimination, peut-être, non ?
Bah, par élimination, je veux dire, le truc de la télé là, qui implose, je pense pas quand même.
D'accord. Alors, je vais vous aider. Il vous reste deux chances. Et vous avez bien fait d'éliminer la télévision.
Ouais.
Il reste une chance sur deux.
Oui, arrêtez de me contredire tout le temps, Patrice.
C'est énorme, là,
c'est pour la dernière, j'ai dit je me le fais.
Il vous reste deux chances sur deux.
Mais je pense que ça serait la plus possible, ça peut arriver, mais oui, la version d'Emma, de mourir de rire, c'est ça, non ?
Bravo !
Bravo, Mélanie !
Ah, génial, merci beaucoup.
Bravo, parce que c'était pas évident.
C'était pas facile, ouais, les deux là, après dans les aigus, je sais pas, c'était quand même bizarre aussi, mais bon.
Ouais, mais bon, en plus, c'est n'importe quoi parce qu'on se fait pas péter les tympans avec les aigus. Éventuellement, on peut avoir un problème d'oreille interne. Mais il n'y connaît rien en anatomie de l'oreille, donc c'est pas.
Je vais te faire péter les tympans, tu vas voir.
Emma, il est donc mort de rire. Alors, Emma, les explications.
C'est pas qu'une expression, en effet, la science l'explique. Quand vous riez à gorge déployée, votre respiration est affectée à cause des contractions saccadées du diaphragme et le rythme cardiaque va s'accélérer. Si les contractions sont trop rapprochées, les phases de repos deviennent trop brefs pour laisser aux artères coronaires le temps de se remplir de sang. Et c'est là que Alex est mort. Plus récemment, d'ailleurs, en 1989, un médecin danois est mort après avoir ri pendant une demi-heure au cinéma devant le film, vous vous souvenez peut-être, Un poisson nommé Vanda.
Ouais, ouais. Ah oui.
Et sinon, je voulais quand même rajouter que concernant Alex Mitchell, sachez que sa veuve, plutôt bonne joueuse, hein, vous allez voir, a écrit au producteur de la série télé, The Goodies, hein, pour les remercier d'avoir permis à son mari, finalement, de mourir dans l'hilarité la plus aboutie.
Formidable.
Ouais, ça, c'est magnifique.
Oui, effectivement.
Ouais. Ouais, il n'y a que les Britanniques avec pour leur humour. Mélanie, bah, écoutez, on va vous envoyer vos écouteurs sans fil modèle Spark de Focal et vous allez pouvoir faire du sport en musique, faire vos tournées de factrice en Corrèze en écoutant l'hebdo si vous le voulez. Et on vous fait un gros bisous.
Ah, moi aussi, je vous embrasse beaucoup. Merci beaucoup et à très très bientôt.
À bientôt.
Bisous, Mélanie.
Merci.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good, mais également avec le magazine C'est Bon, qui est le magazine de l'alimentation, de la bonne bouffe et saine, surtout, de Dr Good. C'est Bon, en couverture, la fraise, star vitaminée de l'été, et vous aurez un dossier sur la constipation, les ballonnements, les aliments alliés de notre transit pour éviter de souffrir quand vous mangez. Nous allons avoir donc les conseils de l'été, puisque je vous rappelle que c'est la dernière de la saison. Emma, que conseillez-vous à nos auditeurs ?
Moi, je leur conseille un livre à mettre dans leur valise cet été, Recettes pour un monde meilleur. C'est aux éditions du Seuil. On le doit à Benoît Bringer, qui est journaliste et qui a sillonné le monde pour mener son enquête. Et il en revient avec un constat très clair. Le pire danger qui menace notre planète, c'est ce qu'on met dans nos assiettes, qui est issu de modes de production complètement délétères. Mais ce qui est bien, c'est qu'il apporte aussi des solutions accessibles à chacun, concrètes, déjà mises en place d'ailleurs par des collectivités ou des individus, de la cuisine anti-gaspi aux achats réalisés auprès d'un petit producteur local. Je vous laisse les découvrir et comme ça, vous pourrez aussi profiter de l'été pour vous réinventer. Le titre, c'est « Recettes pour un monde meilleur » aux éditions du Seuil.
Christophe.
Moi, je vais être très simple. En fait, on a été enfermé pendant des mois. Alors, l'été arrive, c'est les vacances. Il y a fort à parier que vous allez prendre quand même quelques jours de repos. Eh bien, sortez, allez dans nos champs, dans nos chemins, dans nos forêts, au bord de nos plages. Prenez ces magnifiques sentiers qui vont vous permettre de bouger, de marcher pour ceux qui courent pas encore, de courir pour ceux qui aiment bien courir. Découvrez la fameuse Vélodyssée dont j'ai découvert un petit morceau la semaine dernière.
Qui longe tout l'Atlantique.
Voilà. Qui longe tout l'Atlantique. Et il y a, voilà, en France, on est très bien équipé avec tous ces endroits où on peut se balader tout en faisant du sport et en bougeant un peu. Voilà.
Patrice.
Eh bien, moi, je vais commencer par une devinette. Est-ce que vous savez ce qu'est un potoman? J'ai bien dit
oui.
Potoman.
Ah oui, moi
potoman.
Aussi.
Oui. Potoman,
c'est un homme qui est accoudé à un poteau.
Non.
C'est dans la rue.
C'est qui un attend. Homme non. Qui aime bien les poteaux.
Et qui boit trop d'eau.
Non plus. Voilà, c'est quelqu'un qui souffre de potomanie. Et ça vient de potare, qui en latin signifie boire. Et la potomanie, c'est donc le besoin maladif de boire de l'eau ou tout autre liquide d'ailleurs. Et c'est un trouble de la soif qui peut conduire à absorber 5, 6, 7, 8, 10, jusqu'à 15 litres d'eau par jour, ce qui est de la folie complète. Donc, mon conseil pour l'été, c'est
pas bon,
de boire, certes, mais de boire modérément. Et à partir de quand devient-on un potoman, hein, quand on boit plus de 3 litres, et j'entends 3 litres en plus de l'eau qui nous vient de
des
ce
aliments.
Que l'on mange à côté, c'est-à-dire les fruits, les légumes, même la viande, le pain. Y a du...
Sans tomber dans cet excès, n'oubliez pas que l'été, il faut boire avant d'avoir soif. Hein.
Exactement.
Il faut y penser, notamment pour les enfants qui ne savent pas forcément l'exprimer, et surtout pour les personnes âgées qui ont souvent soif trop tard et qui risquent d'être déshydratées, et ça peut faire basculer dans des drames. Donc pensez à faire boire les personnes âgées pendant l'été.
Et quand on fait du sport, avant, pendant et après l'effort.
Absolument. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie avec Coach Cricri.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et c'est la dernière partie de l'émission avec, pour la dernière fois, la dernière chronique, les derniers conseils sport de Coach Cricri. Un message que vous voulez faire passer aujourd'hui à toutes les femmes qui nous écoutent et qui ne se sentent pas toujours en sécurité quand elles décident d'aller courir seules.
Oui, et j'ai moi-même ressenti ça de temps en temps quand je cours et que je croise une femme seule. Je sens ce malaise dans son regard, je sens que les filles ont la trouille, tout simplement, de tomber sur un imbécile qui va les importuner. À chaque fois, je meurs d'envie de m'arrêter, Michel, et de leur dire « mais vous inquiétez pas, je suis juste comme vous, je cours ». Et tout. Bien sûr, je ne le fais pas pour pas rajouter du malaise au malaise. Et puis alors, dans cet état d'esprit-là, je suis tombé sur une association qui s'appelle Sine Qua Non. J'ai eu une discussion avec une de ses animatrices, Gabrielle Gerin, pour ne pas la citer. Elle estime qu'il faut soigner le mal par le mal.
Alors, cette association encourage les femmes à pratiquer leur sport en toute liberté et tranquillité. Et pour ça, elle a inventé des concepts un petit peu décalés.
Oui, et les filles organisent par exemple la Sine Qua Non Run, une course mixte qui se déroule à la tombée de la nuit, au moment où les filles peuvent avoir le plus la trouille de sortir pour courir. Eh bien, elle décide de courir à ce moment-là. La prochaine édition aura lieu en septembre ou en octobre prochain. Parallèlement à cet événement annuel, l'association propose aussi des squads menés par une coach qui s'appelle Lucille Woodward, qui incite à aller courir dans Paris et sa proche banlieue, là encore à la tombée de la nuit, en short et en brassière si on veut. Et ces filles ne sont pas des extrémistes du féminisme, puisqu'elles ouvrent ces courses aux hommes aussi.
C'est vraiment top comme initiative. Elles proposent des choses au-delà de la course à pied.
Alors, et c'est ça qui est bien, justement, elles proposent aussi sine qua non FC. Ça consiste à faire en sorte que les city-stades, qui ne sont traditionnellement occupés que par des hommes, puissent aussi accueillir les filles qui ont envie de jouer au foot, avec et ou contre les mecs. Et tous les mercredis et dimanches, par exemple, des coachs féminines organisent des sessions d'entraînement gratuites un peu partout dans Paris. Aujourd'hui et dimanche, par exemple, les filles se retrouvent au parc Chapelle Charbon, dans le 18e arrondissement, de 10h à midi. Paris dimanche prochain, si vous le ratez aujourd'hui, au stade Max Roussier, porte de Saint-Ouen, aussi de 10h à midi. Vous pouvez y aller équipé, mesdames. Vous tomberez sur une équipe très sympa qui vous fera pousser la balle, certainement avec des hommes, bien sûr.
Et il y aura des choses qui se passeront en dehors de Paris.
Oui, alors pour le moment, les choses se passent à Paris parce que c'est une association qui est assez jeune et sa région. Mais sine qua non ambitionne de dupliquer ce modèle un peu partout en France et même de développer d'autres activités, notamment en proposant aux filles de faire de la boxe. Allez voir le site, hein, tout est très bien expliqué. L'adresse, c'est sinequanonrun.com, S-I-N-E-Q-U-A-N-O-N. run.com, sine qua non run. Voilà, je me dis qu'avant les vacances, cette belle initiative inciterait les filles à pouvoir transpirer sans être enquiquinées. Je vous embrasse, mesdames, et je vous souhaite de bonnes vacances sportives, bien sûr.
Merci, coach Cricrimo aussi. Je vous embrasse.
Merci, Michel.
Emma.
Un petit mot pour finir. Ouais. Vous savez ce que c'est la nomophobie?
La quoi?
La nomophobie.
Ah oui, ouais. Si, c'est quand on a peur de
quelque chose.
Se retrouver sans son téléphone portable.
Ouais. Voilà. Exactement.
No mobile.
No mobile. Alors, il y a un autre mot que je trouvais marrant, c'est celui de smambies. C'est la contraction de smartphone et zombies. C'est les zombies du portable, quoi.
D'accord.
Patrice, une petite brève.
Non, j'ai rien à vous dire.
Non. D'accord. Très bien.
Crac. Moi, j'en avais une, mais c'est pas grave. Je peux.
Bah, allez-y,
vous savez ce que c'est que le kératocone?
Oui.
C'est pas le
kératocone,
celle-là. Non, non. Alors, kératocone,
c'est une maladie de l'œil.
Ouais, tout l'œil. À fait.
Mais, et c'est quoi la question?
Non, qu'est-ce que c'est que le kératocone? Parce que c'est
une déformation de la cornée.
Exactement. Et qui devient d'ailleurs, qui prend un aspect conique.
Conique.
Et ouais. C'est ce qui fait que.
Et qui nécessite la pose, le port de lentilles, notamment pour.
Tout à fait. Voilà.
L'année prochaine, il y a des trucs auxquels vous n'aurez pas la réponse, quelquefois,
si vous voulez,
pour qu'on puisse jouer vraiment.
Un peu, pour ces maladies qui sont quand même connues, ce serait un peu embêtant qu'après tant d'années d'exercice de la médecine et d'études, je ne connaisse pas quelques réponses.
Pour ça, Emma, on parlera de foot, vous inquiétez pas, il connaît rien.
Bon, les amis.
L'attaque.
C'est pas grave, je ne relève pas.
Dernière minute, dernière émission, il vous attaque.
C'est pas grave, je ne relève pas, mon cher Patrice. Mes amis, c'est bien triste, mais voilà, c'est fini. La fin d'une saison où l'on a beaucoup ri. Coach Cricri a fait de nous des êtres musculeux, sculptant nos corps de rêve, nous faisant maigrir un peu. Patrice, quant à lui, nous a fait découvrir que les grands de ce monde pouvaient aussi souffrir. Et puis il y a Emma, que l'on a tant aimée et que l'on aimera. On aima vos papiers. On aima vos saillies. On aima votre sourire qui nous attend ravis. Mais je sais, je m'égare, ce doit être l'émotion de voir se terminer cette si belle émission. À vous, chers auditeurs, à votre fidélité, je dis un grand merci. Vous avez mérité de nous voir revenir pour une nouvelle saison et c'est très goulûment que nous vous embrassons. Passez de belles vacances, faites attention surtout. Et nous comptons sur vous pour être au rendez-vous. Et comme chaque dimanche, c'est sur cette chanson que ça va beaucoup mieux. L'hebdo, nous terminons.
C'est beau.
La belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème.
Oui.
Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et l'on traîne.
Voilà les amis, c'est la fin de cette saison. Chers auditeurs, on vous souhaite un super été, de super vacances. On vous souhaite de revenir en forme. Nous, on sera là le 29 août à 9h15 pour partir sur une nouvelle saison. Et merci de votre fidélité. Passez un très très bel été.
À bientôt.
Éclatez-vous, profitez.
Bonnes vacances.
Je serai là.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.